remarquable intervention. Là, on a un peu des effets miroirs qui se font un peu partout. Est-ce que vous avez des questions là? Pour le moment, je n'ai pas trop de...
Juste une remarque, l'écriture comme matière et comme son, on a ça dans le théâtre, où tout d'un coup, il y a des personnages qui se mettent à dire, on a l'impression que c'est n'importe quoi, mais des sortes d'onomatopées, comme ça.
Complètement. Mais je n'ai pas du tout le temps de regarder le théâtre d'Audiberti.
Mais ça ne fait rien, ça rejoint...
Mais en fait, mais je me suis dit, comme il y a aussi ce rapport avec Hugo... De polygraphie, de passer d'un genre à l'autre. Cette question de la matérialité, évidemment, elle n'existe pas de la même manière au théâtre. Je pense qu'elle serait très intéressante à étudier, même les personnages, la manière dont les personnages parlent de leur rapport au langage. J'ai vu passer des citations de Quetcott sur cette... il y avait cette dimension-là, j'ai pas eu le temps de le regarder, mais je pense qu'effectivement, ça serait extrêmement intéressant. Par ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai pas mentionné. Et là encore, c'est une question sur Audiberti, mais j'ai l'impression que quand il parle donc, de poèmes et de poétique, il referme beaucoup sur le genre en fait, de la poésie. Là où je crois que Hugo ne le fait pas, et notamment sur cette question de la matérialité, par exemple, le début de L'homme qui rit, avec la neige et la nuit, ça part d'une méditation sur les mots nix. Et Nox, qu'on retrouve aussi dans les titres. Donc, je pense pas qu'il y ait de clôture comme ça de la poésie sur elle-même, de la poésie comme genre sur elle-même, comme on le voit chez Audiberti. Mais le temps m'a manqué pour vraiment considérer les différentes pratiques de genre, et notamment, bien sûr, le théâtre.
À propos de lettrisme, je ne l'ai pas en tête, mais Audiberti a écrit un poème lettriste. Je l'ai pas en tête.
Je ne savais pas.
Peut-être que monsieur le connaît.
Vous connaissez
Oui, les camions de la solde.
Les camions, ça s'appelle les camions de la solde.
Il a été inspiré par un poète qui s'appelait Ilias.
Isidore Isou. Isidore Isou.
Eliphas.
Ou Georges Ilias. Non, je ne sais plus. Oui. Ça s'appelle effectivement les camions de la solde.
Les camions de la solde, bon, c'est un. Bon, c'est effectivement, comme vous dites, c'est beaucoup plus déconstruit que construit. C'est-à-dire que le lettrisme a tendance à déconstruire, alors que ce que vous avez expliqué, c'est plutôt une entreprise de bâtisseur, sachant que vous n'avez pas rappelé, mais évidemment, tout le monde le sait, il était fils de maçon.
Bon, oui, c'est lié côté matériel.
Vous avez dit. Donc, alors, ce qu'il y a, c'est qu'il était fils de maçon. Hein, quand on voit les remparts d'Antibes, évidemment, c'est très très parlant, c'est simple. Mais ensuite, quand on est dans les flux marins, quand on est dans les paysages, c'est beaucoup moins simple. Ce qui, peut-être pour introduire le fait que tout en étant très très ancré dans la réalité, il est parfois pas sobre. Il y a différents types de matières. Il y a la matière facile à identifier, la pierre, le rocher. Et puis il y a des matériaux qui sont moins faciles, qui sont plus énigmatiques, qui se comportent d'une façon qu'on n'attend pas. Et là, c'est aussi la richesse d'une poésie encore plus moderne que bâtisseuse. Voilà.
Mais c'est toujours de la matière. Et ça, là-dessus, il y a un passage très intéressant qui m'a fait vraiment beaucoup penser à Hugo, où il parle du mot, justement, et du mot dans son rapport au rêve. Et il parle d'enveloppe de rêve autour du mot. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de séparer la matière et de considérer qu'il y a des choses matérielles et des choses flottantes, immatérielles. Il y a aussi une matérialité, des choses qu'on va considérer souvent comme immatérielles. Et notamment le rêve, l'aquatique, le fluide, sont du côté de la matérialité. C'est pas que le bâti du maçon, c'est aussi le rêve et l'onirique comme matière.
Mais qui donne lieu à des développements beaucoup plus complexes, je dirais.
Oui, bien sûr.
C'est juste pour...
une question. Il y a une dimension de démiurge chez Hugo, le verbe et la lumière. Et la lumière vient justement de l'ombre. Et la question que je me posais, parce que vous venez de le rappeler, est-ce que le verbe, le mot, c'est pas justement la synthèse de l'image, c'est-à-dire le rêve, et du son, de la musicalité du verbe.
Alors, ça c'est quelque chose...
Et la lettre, chez Go, c'est à la fois du son, hein, il décline les sons H, la H, etc. Et bien sûr, la graphie, presque du calque. Pardon.
Non, mais vous avez tout à fait raison, et c'est très présent chez Hugo comme chez Audiberti. Oui. Il y a des passages que je n'ai pas relus, mais des citations où il parle d'une matière phonétique et visuelle, sonore et visuelle. Et il y a toujours effectivement ce double volet, et chez Hugo aussi, c'est matière sonore et matière visuelle, même en poésie, rime pour l'oreille, rime pour l'œil aussi. Et ça, j'ai effectivement pas considéré le côté vraiment sonore, je l'ai pris sous l'angle visuel et graphique, objet visuel, mais vous avez absolument raison, je pense que... Et d'ailleurs, c'est aussi une question que je me suis posée en écrivant cette communication par rapport au Liberty, c'est son rapport avec les technologies d'enregistrement, en fait. Est-ce que lui-même avait une pratique de lecture de ses poèmes, de mise en voix? Est-ce qu'il enregistrait des gens mettant en voix ses propres textes? Parce qu'il y avait ce dispositif qui était accessible pour lui, et vu son intérêt pour la matière sonore, et que la poésie pouvant aussi être objet sonore, je me suis demandé s'il y avait recours ou pas.
Oui, bien sûr. Le mystère
est dans la symbiose des deux.
Bien sûr. Il a enregistré des poèmes, il a répondu à des entretiens à la radio.
Il y a le théâtre
pour
la radio aussi.
Il y a le théâtre
pour la radio. Le plus important chez Audiberti, si vous me permettez, c'est toujours ça. Il dit, avant d'écrire un poème, je pense au souffle respiratoire et à la démarche mentale. Et là, c'est extraordinaire. Dans un poème où il dit, il gîtait explosif dans l'arche qu'une habile arabesque rainure où séjourne la bile contre la vie ailée au gré de la racine, de l'objet à l'objet bondissante dessine, bientôt voile qui vole et l'entend retentir. C'est vraiment, c'est extraordinaire.
C'est ça.
Et, ouais. et là, on le sent non seulement très impressionnant, et surtout le son, c'est le son chez Audiberti. Et vous avez parlé de l'hermétisme. Moi, je ne connais pas la langue française, mais quand je lis l'œuvre de Stéphane Mallarmé ou d'Audiberti, je sens en fraternité permanente avec ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pudeur chez Audiberti, la pudeur de la langue. Et c'est pour ça, quand il analyse l'œuvre de Stéphane Mallarmé, il avait une odeur sèche, une odeur de théorème. Et après, il dit, ce comprimé lyrique versifié et rimé. Pourquoi ce comprimé lyrique ? C'est-à-dire qu'il faut avaler ce comprimé pour comprendre vraiment les ennuis. Et c'est ça. Il dit aussi dans une autre phrase, il dit, il faut que le vrai écrivain trouve les mots qui tombent sur les mots de la société. C'est-à-dire qu'un remède, le langage pour Audiberti, il y a une bande vraiment de joie, il gîtait explosif dans l'arche d'une habite, et la deuxième, c'est un remède pour vraiment tout le monde. Et c'est comme Mallarmé qui a vraiment trouvé sa langue, à travers la langue française, pour annoncer le nouveau monde. Et c'est pour ça qu'Audiberti a écrit la nouvelle origine. Si vous ne trouvez pas cette nouvelle origine, vous ne pouvez pas vraiment vivre dans un monde stable. Et là, c'est extraordinaire, parce que si vous ne trouvez pas la nouvelle origine, vous êtes dans la mauvaise origine, et le retour de divin et la fin du monde, elle est devant nous. Et c'est pour trouver un nouveau monde, il faut trouver la nouvelle origine. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire chez Audiberti. C'est une pensée extraordinaire. Ben, Audiberti, c'est un extraordinaire. Et pour l'hermétisme, simplement, il y a un mot qui dit Audiberti, il faut allumer les mots par les mots. Oui, c'est très important, parce qu'ils ont accusé Mallarmé qu'il écrit vraiment une poésie par les idées. Il a dit non, j'écris la poésie par les mots. Et ça, c'est très très important. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais vraiment, je...
Vous êtes extraordinaire, en tout cas. Oui, je voulais citer comme dernier moment de... Alors, je ne sais pas si c'est du littérisme ou quoi, Frédéric, ce poème, CP.
Oui.
Qui commence par les chiens.
Oui, oui.
Tu l'as, là ?
Je vais le montrer, là.
Pas, mais peut-être que monsieur le connaît par cœur.
Vous connaissez par cœur le poème Les chiens ?
Anne. Ah, 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 c'est dans le...
Non, c'est P.
Non, c'est dans, vraiment, des temps de semences, je pense.
Oui, mais...
Oui. Les chiens, vos chiens.
C'est ça. Vous avez un moment, en tout cas. On va l'attendre tout à l'heure.
C'est jamais.
Hélène, et puis... Donc, on va passer. Ah, Laurent, pardon. Je rapide, Laurent, avec une question.
Vous avez cité quoi que soit, je pense que vous faisiez allusion à... À ce que vit le prisonnier Amédée, c'est extrait d'une étude faite par un metteur en scène espagnol, et il montre comment Audiberti fait exister les choses grâce aux mots. Et voilà ce que dit Amédée qui est prisonnier dans le bateau. Pour l'instant, je suis le prisonnier. Et il convient que la prison soit réelle pour que le langage ait un sens. Et il convient que la prison soit réelle pour que le langage ait un sens. Et peut-être, après tout, pour que ce langage soit plus sensible encore et que les fusils reçoivent la vie, leur vie instrumentale et vocabulaire, peut-être, pour de bon, va-t-on fusiller. Comme il y a le mot prison fusil, ça fait exister le fait qu'il va être fusillé. Et il dit, c'est presque la force vocabulaire du mot.
Mais sur l'action du mot, c'est vraiment très intéressant.
Mais
pour le
guerre, c'est intéressant. Merci beaucoup en tout cas, et donc on va souligner maintenant.